Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Carole Grandjean.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce studio. Vous êtes députée La République En Marche et vous êtes donc l'une des co-rapporteuses de la mission gouvernementale sur la fraude sociale. Et vous venez de rendre au Premier ministre une liste de préconisations, de recommandations en matière de lutte contre la fraude sociale. Pour être tout à fait clair avec nos auditeurs, j'aimerais que vous définissiez clairement là aussi ce que l'on appelle la fraude sociale. De quoi parle-t-on ?
Alors la fraude sociale, c'est très large hein, comme spectre. Déjà, de quoi parle-t-on ? On parle de 450 milliards de prestations sociales qui sont versées chaque année. Sur ces 450 milliards, nous estimons entre 3 à 10 % le montant de la fraude que cela représente. La fraude, ça passe par de la fraude documentaire, donc des documents qui sont falsifiés. Ça passe par des preuves de vie qui devraient pouvoir être données, c'est-à-dire un décès qui n'est pas déclaré, des prestations qui sont toujours versées. Ça peut être un logement qui n'est pas correctement déclaré de manière à recevoir des prestations indues. Ça pourrait être finalement de faire une fausse déclaration de revenus pour pouvoir bénéficier de prestations au Pôle emploi ou de ne pas déclarer une activité au Luxembourg quand je travaille et de pouvoir continuer à bénéficier de prestations sociales pendant ce temps.
Alors, voilà, vous êtes...
ce sont des types de prestations frauduleuses.
Vous êtes très précise dans votre première réponse. Et en même temps, vous nous dites qu'on a une évaluation du chiffre global. Comment se fait-il ? Alors, on comprend très bien que par définition, que ce qui est au noir ou non déclaré fait l'objet d'évaluation. Mais les 450 milliards, on en est sûr ou ça reste vague ? On sait que des enquêtes ont chiffré à 7, 10% peut-être le chiffre qu'on ne connaîtrait pas. Et quand allez-vous le produire ? Vous avez travaillé et du coup, il nous manque d'une certaine façon la preuve ou l'élément formel qui fait tout basculer.
Mais effectivement, l'enjeu du chiffrage est extrêmement important aujourd'hui. Alors, par essence, la fraude est donc intentionnelle et donc dissimulée. C'est un phénomène dissimulé. Les 450 milliards, c'est bien le montant global des prestations
versées. Nous sommes d'accord.
On n'est pas sur le montant de la fraude. L'université Portsmouth, qui est une université indépendante qui travaille sur le chiffrage de la fraude, c'est son domaine de spécialisation, estime entre 3 à 10 % le montant de la fraude réalisée.
Donc pouvant monter jusqu'à 45 milliards.
Exactement.
Donc c'est un chiffre faramineux si c'est bien le cas.
C'est faramineux. C'est largement sous-estimé en France. Et on a une vraie culture de la lutte contre les fraudes à acquérir en matière sociale. On l'a plus ou moins en matière fiscale tout de même. Mais en matière sociale, c'est une vraie culture qu'il nous faut pouvoir acquérir.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. On a un Bercy qui est très performant quand il s'agit de savoir comment contrôler nos impôts, et l'argent qu'on distribue, qui est donc l'argent de tous les Français, lui, on n'a pas aujourd'hui les outils pratiques de surveillance, de compréhension. Comment l'expliquez-vous ?
Oui, alors ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'au fond, la fraude fiscale, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. La fraude sociale, c'est de l'argent qui sort indûment. Donc c'est, je dirais, presque d'autant plus grave qu'effectivement, on paie de manière indue. C'est tout à fait significatif de comparer ces deux systèmes-là et le fait que nous soyons très en retard en matière de lutte contre les fraudes sociales.
On entendait dans notre journal de 7h le cas d'un médecin qui, visitant 40 patients dans un EHPAD, demande à la Sécurité sociale de lui rembourser 40 fois le déplacement entre son cabinet et l'EHPAD dans lequel il passait la journée entière. C'est fréquent ce genre de mauvaise pratique ?
On a une estimation de 30%, 30% des fraudeurs finalement de la CPAM, donc de la caisse maladie, d'assurance maladie, 30% des fraudeurs sont des professionnels de santé. Donc tous les professionnels de santé ne sont pas évidemment des fraudeurs. Mais 80% du montant fraudé pour la CPAM est du fait de professionnels de santé. Quand je parle de professionnels de santé, on parle de médecins, mais on parle aussi de personnes qui font du transport de patients, on parle aussi d'infirmiers, etc. Donc on est sur tous les métiers autour du médical, c'est énorme. On a aussi le cas dans le nord-est de la France du médecin qui a souhaité se faire rembourser son déplacement parce qu'il s'était déplacé en ski. Je vous assure, même dans le nord-est, on ne se déplace pas à ski quand on est médecin. Donc on a un certain nombre de fraudes qui sont tout à fait interpellantes, qu'il nous faut absolument pouvoir maintenant combattre. Et on a besoin d'une vraie culture de lutte contre les fraudes dans tous nos organismes sociaux. sociaux avec une vraie détermination à faire cesser ces pratiques et des ordres qui nous accompagnent dans cette lutte.
Qu'allez-vous préconiser comme moyen de lutte à renforcer aujourd'hui ?
Alors déjà, on a un grand pan autour de la sécurisation des données d'état civil. Quand vous avez un numéro d'identifiant au registre individuel des personnes physiques, oui, qui est basé sur des documents falsifiés, évidemment, ça crée de vrais sujets puisqu'il ne bénéficie de prestations dont il ne devrait pas bénéficier probablement, ou alors ils peuvent même se faire faire plusieurs numéros. Donc on a de vrais sujets autour de la sécurisation des données d'état civil.
Dont les fameux 3 millions de centenaires réputés en vie.
Nous avons 3,1 effectivement millions de centenaires réputés en vie.
Ils ne bénéficient
pas tous forcément de prestations sociales, rappelons-le. Néanmoins, évidemment en France, nous avons plutôt autour de 20 à 25 000, si vraiment on est très optimiste, centenaires vivant en France. Donc on a un vrai sujet. Le deuxième sujet, véritablement, c'est de sortir du déclaratif. Le déclaratif, ça pose un vrai problème, déjà d'erreurs non intentionnelles, d'accès au droit. Et puis évidemment, quand vous déclarez à la CAF un montant qui est différent de celui que vous avez déclaré aux impôts, c'est un vrai sujet. Donc il nous faut sortir du déclaratif et aller vers de l'interconnexion entre nos organismes de sécurité sociale et nos administrations fiscales.
Une toute dernière question, êtes-vous pour la suppression, je dirais, de la carte vitale à vie, puisque une fois qu'on l'a obtenue, on ne nous interroge plus jamais sur cette carte vitale. Je veux votre avis personnel.
Alors, en quelques mots, s'il vous plaît. Effectivement, sortir de cette carte vitale à vie, donner des conditions de reconduction, et probablement que ça pourrait passer par une carte vitale dématérialisée et des ordonnances d'ailleurs dématérialisées qui lutteraient là aussi contre un certain nombre de fraudes.
Merci beaucoup, Carole Grandjean. Je rappelle que vous êtes co-rapporteuse donc de la mission gouvernementale sur la fraude sociale. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer les enjeux aussi de cette fraude, et on attend les réactions de nos auditeurs au 3210 sur le sujet. Et tout à l'heure, Pascal Praud y reviendra largement. Dans les auditeurs, on a la parole. 3210 pour tous vos appels dès maintenant.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.